France Musique. Musicopolis. Mars 1908, Paris. Au matin du dimanche 15 mars, le journal Le Matin, justement, annonce les concerts de l'après-midi. À 2h30, concert Colonne, salle du Châtelet, direction Monsieur Édouard Colonne. Le programme est ainsi commenté. Tout à l'Espagne, c'est au-delà des Pyrénées que les compositeurs, jadis férus de germanisme, s'en vont chercher matière à leurs inspirations. Hier, c'était la Habanera de Raoul Lapara triomphante à l'Opéra Comique. Aujourd'hui, ce sera au Châtelet la Rhapsodie espagnole de Monsieur Maurice Ravel. Mais cette Espagne-là n'est pas de la même sorte. Elle ne plaira pas à tout le monde. Et son triomphe, si triomphe il y a, n'ira pas sans de furieux combats. Car Monsieur Ravel, jeune hérésiarque de l'église de Bussiste, a beaucoup d'ennemis. Ce ne serait rien, mais il compte aussi des fidèles. Enthousiastes, certes, et dangereux combien ? Vous les verrez sans doute à l'œuvre. Le 25 mars 1908, 10 jours après la création de la Rhapsodie espagnole, Ravel écrit à son ami le critique musical G. Jean Oubry. Ça s'est bien passé dimanche. Colonne s'est montré plein de dévouement, d'habileté et le public de chaleur. Les critiques sont plus tièdes, mais c'est moins important, sauf votre respect. D'ailleurs, ceux favorables ne sont point en cause, bien entendu. La critique n'est pas si tiède que le croit Ravel, puisque dès le lendemain de la création, l'ouvreuse, pseudonyme de Henri Gauthier Villard, écrit dans Comédia « Et ce fut la Rhapsodie espagnole de Ravel, miroitante, éblouissante et accueillie avec une ferveur imprévue par un public peu familiarisé pourtant avec l'écriture de l'auteur des Miroirs. On bisse la Malagueña, on acclame le tout avec force, malgré le traditionnel sifflet qui est plus doux aux oreilles des jeunes compositeurs que la plus délicate des louanges. » Amédée Boutarel, le critique du Ménestrel, est peut-être légèrement plus réservé, soufflant à la fois le froid et le chaud. La Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, écrit-il, a été saluée par les acclamations de toute une partie du public. Les quatre parties de cette Rhapsodie forment autant de petites descriptions symphoniques ou tableaux qui se succèdent rapidement les uns aux autres et, malgré certains défauts d'écriture, ne cessent guère d'être captivants. Bien qu'il y ait dans tout cela peu de musique proprement dite, il s'en dégage une jeunesse, un coloris, un mouvement contre lesquels on ne résiste pas et une sincérité très grande. Mais qu'est-ce donc que cette manie qu'ont les compositeurs français d'écrire des choses espagnoles ? D'abord, remarquons que ça fait bien longtemps que cette manie les tient. Sans remonter à l'arrivée en France du ténor Manuel Garcia en avril 1807, on peut au moins remarquer tous les thèmes espagnols et andalous qui sillonnent les lignes des romanciers et des poètes et qui se retrouvent aussi en musique. En 1875, le succès de Carmen de Bizet ouvre la porte à toutes les habaneras et autres séguédilles. La musique française à l'époque de Carmen et après se remplit de clichés espagnols, triolets, castagnettes et modes demi, avec un fond d'érotisme sous-jacent qui rend la couleur locale encore plus attractive. On ne compte plus les symphonies espagnoles, havanaises ou filles de Cadix, sur un poème de Musset qui, contrairement à Mérimée, n'a pas fait le voyage.
Nous venions de voir le taureau, trois garçons, trois filles.
À côté de Carmen, la pièce française espagnole qui a eu le plus de succès en France est certainement la Rhapsodie pour orchestre de Chabrier, Espagna. Depuis l'immense succès rencontré à la création en 1883 au Concert Colonne, elle fait partie de toute bonne saison de concerts parisiennes et elle a instauré une sorte de canon de l'orchestration entre guillemets espagnole. On comprend, à entendre cet Espagna de Chabrier tellement apprécié, que pour les critiques français, la musique française à la mode espagnole se doit d'avoir une orchestration brillante, chatoyante et presque, si j'ose dire, bruyante. Voilà qui n'est pas vraiment le cas de la Rhapsodie espagnole de Ravel, créée le 15 mars 1908, exactement 25 ans après Espagna. Thank you. Dans son livre sur Ravel de 1948, le compositeur et musicologue Roland Manuel écrit « C'est dans la rhapsodie espagnole que retentit pour la première fois cet orchestre nerveux, félin, dont la transparence, la netteté et la vigueur sont exemplaires, dont la sonorité tout ensemble, soyeuse et sèche, est comme la marque de Ravel. Aucune instrumentation n'avait encore obtenu de tout petit plus cassant, de piani plus léger. » Apparemment, le public ne s'y est pas trompé, puisque, comme le dit un critique, un bis impétueux a obligé M. Colonne à faire redire la seconde partie « Malagueña ». Le critique du Ménestrel se raconte des histoires à l'écoute de la rhapsodie espagnole de Ravel. « Il semble, écrit-il, que M. Ravel, de retour d'Espagne, la tête remplie de rythme, de bruit de castagnettes, de parfums respirés pendant les belles nuits, ait cherché à extérioriser musicalement toute l'éblouissante poésie dont il se trouvait comme imprégné. Ce sont tour à tour des effluves langoureuses, des rires joyeux, des remous de foule, des danses échevelées où toutes les ressources instrumentales sont habilement employées. » Alors non, Ravel ne rentre pas d'Espagne lorsqu'il écrit sa rhapsodie espagnole. Mais il est vrai qu'il a depuis longtemps une affinité toute particulière avec ce pays. D'abord, il est né à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz, à 10 km de la frontière espagnole. Sa mère, basque et bascophone, a fait un assez long séjour à Madrid dans sa jeunesse, où elle a appris l'espagnol et où elle a entendu beaucoup d'airs de zarzuelas qu'elle a chanté ensuite à ses enfants. « Ma mère, dira Ravel plus tard, m'endormait en me chantant des guajiras. Peut-être par atavisme, je suis très attiré par l'Espagne et la musique espagnole. »
Madera, donde allí mi hombre murió, defendiendo su bandera. Yo consumiendo mi pena y el luto de negro manto, y agobiándome en el llanto, yo no.
Dans le catalogue de Ravel, la rhapsodie n'est pas la première pièce d'inspiration espagnole. En dehors de la pavane pour une infante défunte, dont seul le titre a quelque chose d'ibérique, il y a la quatrième pièce des miroirs pour piano, Alborada del Gracioso. Le compositeur y met en avant un rythme nerveux et une stylisation de guitare et d'ornementation mauresque. Lorsqu'en 1907, on demande à Ravel de composer une petite vocalise pour un recueil qui va être publié chez Le Duc, il pense tout de suite à une vocalise en forme de habanera. Thank you. La même année où il compose sa vocalise en forme de habanera, Ravaille travaille sur une autre œuvre d'inspiration espagnole, un petit acte d'opéra sur un livret un peu leste de Fran Nohain. Il y travaille Dardar d'avril à octobre 1907. Écrivant à un ami pour s'excuser de ne pas lui avoir donné de nouvelles, « Je fais du 120 à l'heure espagnol ». C'est le même été où il travaille à l'heure espagnole que Ravel élabore sa rhapsodie, espagnole elle aussi. Et on trouvera dans la pièce pour orchestre quelques-uns des clichés espagnols qu'il emploie avec ironie dans son petit opéra. Mais d'abord que je vous dise, je n'ai pas cité tout à l'heure dans les œuvres espagnolisantes de notre compositeur une pièce pour deux pianos écrite en 1895. Ravel a alors tout juste 20 ans, mais il est déjà totalement Ravel. Cette habanera pour deux pianos, Ravel la ressort à l'été 1907 de ses tiroirs où il l'avait abandonnée 12 ans plus tôt. Et il décide de lui adjoindre trois autres pièces. En fait, il voudrait bien faire quelque chose d'espagnol pour orchestre qui puisse rivaliser avec une œuvre qu'on entend souvent alors à Paris, le Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov. Les Russes sont très en vogue et on cite le Capriccio tout particulièrement comme un modèle d'orchestration. Une saison russe a eu lieu au printemps 1907 grâce à Diaghilev, un impresario et organisateur particulièrement entreprenant, et on prévoit une prochaine saison 1908 encore plus éblouissante. C'est sur le bateau de son ami Misia Edwards, où il passe des vacances l'été 1907, que Ravel conçoit les trois mouvements qui entourent sa habanera dans une première version pour deux pianos. Il hésite ensuite sur l'instrumentation à lui donner. Il a du mal à s'y mettre. À partir du mois de décembre jusqu'au mois de février, il donne des cours d'orchestration justement au compositeur anglais Ralph Vaughan Williams. Il lui fait orchestrer ses propres œuvres pour piano et il le fait travailler aussi sur des pièces russes, de Borodine ou de Rimsky-Korsakov, réécrire une œuvre pour orchestre d'après une réduction pour piano. C'est exactement à cette époque qu'il orchestre sa propre rhapsodie espagnole. « Ravel tient à ce que sa rhapsodie espagnole soit donnée à Paris avant l'arrivée des Russes. Et il travaille acharnément sur son orchestration au cours du mois de février. Tout est prêt à temps, mais l'œuvre étant très nouvelle dans son écriture, d'abord les musiciens refusent de jouer. Et il faut toute la persuasion d'Édouard Colonne pour leur faire accepter l'œuvre. Heureusement, tout se passera bien. Et malgré quelques remous lors de la première, l'œuvre sera bien accueillie. Ce n'est pas la mauvaise critique de Pierre Lalot, détracteur persévérant de Ravel, qui l'empêchera d'être jusqu'à aujourd'hui un pilier du répertoire français. La Feria, le final de la rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Charles Munch. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Claude Niort pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.